Radio Village Innovation, émission spéciale.
Voilà, bienvenue à toutes et à tous sur Radio Village Innovation. Le think tank Les Napoléons était réuni la semaine du 15 juillet dernier à Arles. Théâtre, vous le savez, de nombreuses manifestations culturelles en été, un cycle de conférences avec bien de nombreuses personnalités, experts, créateurs d'entreprises, militants, personnes engagées. Tous se sont exprimés. Christophe Bis, bonjour.
Bonjour Anne.
Voilà, journaliste pour l'usine Nouvelle. Vous étiez à Arles, d'ailleurs dans un décor un peu particulier pour assister à ces Napoléons et réaliser ces interviews.
Ouais, on était dans la cour d'une école maternelle avec la chaleur.
Ouais.
Au début, on était sur la cour sous les arbres arlésiens. Puis après, on a été dans une école maternelle. On était dans l'école elle-même, au milieu des jouets. C'était très rigolo.
Et bah c'est parfait. C'est pour infuser déjà la culture dès la plus tendre enfance.
Voilà.
Hein. Voilà. Parmi les personnalités précisément que vous avez rencontrées, hein, je rappelle que la thématique cette année était très axée sur l'environnement, sur l'écologie. Eh bien, il y avait Nicolas Arpagian. Il est directeur de la stratégie et des affaires publiques d'Orange Cyberdéfense. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans?
Alors là, d'abord, Nicolas Arpagian est un pionnier de la cyber et de la cyberdéfense en particulier. Et il est venu nous parler de la manière dont on pourrait peut-être hacker dans le futur, enfin dans la manière dont dans le futur on pourrait hacker le passé plus exactement. Et si donc on a des données passées fausses, comment on n'arrivera plus à faire tourner notamment les logiciels d'intelligence artificielle, tout ça donc dans un décor d'école maternelle.
Eh bien c'est parfait, on l'écoute tout de suite, on écoute Nicolas Arpagian.
Nous sommes toujours à Arles à l'occasion des Napoléons et je suis avec Nicolas Arpagian qui est directeur de la stratégie des affaires publiques de Orange Cyberdéfense. Jusqu'à maintenant, j'ai tout bon. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes venu nous parler ce matin au Napoléon du lien entre la cybersécurité et la transmission.
Oui, effectivement, c'est-à-dire que le sujet est de parler de cette information que nous produisons, que nous collectons, que nous amassons et qui va permettre, le souhaitons, d'éclairer la prise de décision par le fait qu'on va pouvoir, alors que ce soit ce qu'on appelle du machine learning, de l'intelligence artificielle demain, c'est-à-dire le fait que les données compilées par rapport à des comportements, des usages numériques vont permettre peut-être d'aider à la prise de décision, voire de susciter des actes concrets, confiés à des machines. Et donc, cette importance de la donnée va justifier qu'on se préoccupe de l'intégrité des informations qui vont être ainsi compilées, être sûr que personne ne les a modifiées, ne les a altérées, en a retiré, voire en a supprimé certaines de manière indue. Et puis, il va falloir garantir la disponibilité de ces informations, faire en sorte que lorsque je souhaite les solliciter, les compiler dans mes algorithmes, bah, effectivement, que ça puisse se faire, qu'elles puissent être disponible. Et donc, ça va faire partie des critères, la disponibilité, l'intégrité et puis également la confidentialité. Dès lors que j'ai des informations qui peuvent, surtout dès lors qu'elles sont rassemblées, croisées, utilisées sur la durée, révéler des éléments importants, stratégiques, alors sur la vie privée, des secrets de fabrication ou autres, on a besoin d'assurer la confidentialité. Et donc, on a ces trois composantes qu'il va falloir prendre en compte et faire cohabiter pour que cet usage numérique respecte ces conditions qui sont gages de la durabilité de l'exploitation numérique des données.
Oui, parce qu'on a un peu parfois l'impression que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui nous projette dans le futur. Ce que vous nous rappelez là, c'est que finalement, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui fonctionne s'il n'y a pas la mémoire du passé.
Il est très important pour pouvoir envisager de confier à des algorithmes des prises de décision ou en tout cas un éclairage de l'avenir, d'avoir une totale certitude de l'intégrité des données. C'est-à-dire faire en sorte qu'elles désignent bien la réalité qu'elles doivent mesurer, c'est-à-dire éventuellement des comportements, des pratiques, des usages. Et donc le risque sinon c'est le biais qui va venir fausser la prise de décision. Si on est à se fonder sur justement un élément technique, il ne faut pas avoir de doute quant à l'intégrité des informations. Pourquoi ? Parce que sinon, on n'aura qu'un simple résultat et ce résultat pourra être biaisé par justement une mauvaise prise en compte des données. Et donc, c'est primordial d'avoir une vision claire des informations qui vont alimenter, nourrir. C'est pour ça qu'on parle d'abord de machine learning de manière plus modeste que l'intelligence artificielle, mais ce machine learning est la première étape, la condition nécessaire que la machine apprenante soit nourrie d'un grand nombre de données. C'est un important d'avoir des données en nombre conséquent, des données harmonisées, en tout cas qui soient exploitables et interopérables les unes avec les autres, et qui portent sur une relative période de manière à ce que justement elles ne soient pas biaisées par des comportements ponctuels, erratiques, qui ne correspondraient pas à la généralité des usages. Donc effectivement, ces informations, on faisait référence à la doctrine expliquée par George Orwell dans 1984, en disant qu'effectivement, on avait toujours cette confiance dans le caractère immuable du passé, bah là, si on n'y prend pas garde, quelqu'un pourrait venir traficoter les données et donc ainsi avoir une action pas forcément bienveillante sur la prise de décision future.
On a des travaux de recherche, des exemples en tout cas de puissances étrangères ou de groupes d'intérêt qui essaient déjà d'intervenir sur ces données passées pour avoir un impact sur ces outils d'intelligence artificielle ou de machine learning.
On n'a pas d'éléments documentés, surtout attribués à un pays, parce que ça ne relève pas forcément de l'expertise d'un service de renseignement, d'une chancellerie, c'est-à-dire d'un pays avec des moyens d'État, en quelque sorte. Par contre, ce qui est certain, et même dans les entreprises, j'allais dire la hantise, c'est qu'une mauvaise exploitation des données, ou en tout cas des données qui ne seraient pas, dont l'intégrité ne serait pas assurée. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, un peu, vous savez, comme ces tests de ceinture de sécurité qui sont faits uniquement sur des mannequins hommes d'1m80 et de 90 kilos. Alors évidemment, pourquoi ? Parce que les techniciens qui procèdent aux tests ont souvent des caractéristiques d'hommes adultes en bonne santé et donc avec une corpulence qui correspond à ces critères. Et puis on va s'apercevoir que l'utilisateur, l'utilisatrice, n'a pas forcément cette corpulence et donc le système de protection qu'on a envisagé pour la voiture, en fait, ne correspond pas à un certain nombre de personnes de la population. Et donc on a un biais. De la même manière que lorsque des tests ont été faits par rapport à des bots, c'est-à-dire ces moteurs qui doivent répondre à des sollicitations d'internautes ou d'utilisateurs, effectivement, si ceux qui ont conçu les programmes avaient une vision, dirons-nous, masculino-centrée, effectivement, ce bot allait lui aussi, dans ses réponses, privilégier les positions masculines par rapport aux positions féminines. Donc il est très important d'avoir une qualité, une neutralité des données, de manière à ce que justement il n'y ait pas de biais, parce que ça viendrait fausser les enseignements, ou en tout cas les options proposées par le machine learning dans un premier temps et demain l'intelligence artificielle.
Alors ce matin, lors de votre intervention devant les Napoléons, vous avez eu cette punchline que j'aime beaucoup. Vous avez dit, si on veut cacher un cadavre, il faut le mettre en page 3 de Google.
Alors, je ne suis pas l'auteur de cet aphorisme, je suis heureux de pouvoir le relayer, mais l'idée, c'était de dire, effectivement, les gens ont un sentiment de disponibilité. Dès lors que vous mettez à leur connaissance, à leur disposition, des premiers éléments d'information, ils peuvent avoir l'illusion qu'ils ont l'exhaustivité de l'information. Pourquoi ? Alors, souvent, ça va être en plus conditionné, outre par la qualité du moteur de recherche, mais même par la taille de l'écran qui va servir à la consultation, parce que si vous consultez sur une tablette, sur un téléphone, un smartphone, évidemment, ce sont des écrans plus réduits que sur un grand écran d'ordinateur, et donc ces quelques premiers éléments de réponse vont souvent satisfaire l'internaute. Et donc, on voit bien que la maîtrise de l'information, la mise à disposition de données, va être un élément de façonnage, d'orientation de la connaissance de l'internaute, et donc du mobinaute. Il n'y a pas forcément de malice, en tout cas, on n'est pas dans une mise à disposition neutre et sans conséquence. Je rappelais en ce mois de juillet 2019 que, par exemple, sur Google, pour la première fois en début juillet 2019, Google.fr va faire en sorte que lorsque l'on va rechercher le mot lesbien sur le moteur Google.fr, ce ne soit pas des résultats pornographiques qui arrivent systématiquement dans les premières pages de résultats de recherche. Ça peut sembler anodin, mais vous voyez que quelqu'un, une quelqu'une qui s'intéresserait ou se préoccuperait de son orientation sexuelle avait comme premier contact uniquement de la pornographie, ce qui n'est pas forcément très encourageant pour quelqu'un qui est dans une phase de construction personnelle. Et donc on voit que avec un habillage technique, dès lors qu'il y a une volonté éditoriale, en quelque sorte, on va bien pouvoir redessiner la nature des informations mises à la disposition de l'internaute, du mobinaute, et donc la plateforme d'accès à l'information va avoir une responsabilité et un rôle considérable dans la transmission, la mise à disposition de la connaissance. On n'est certainement pas là uniquement dans un outillage technique. Il y a une vraie responsabilité éditoriale et donc on ne peut pas mettre ça uniquement sur le dos de l'algorithme. Ce sont bien les composantes de l'algorithme, ce cheminement qui est fait par cet enchaînement automatique de décisions par la machine qui vont pouvoir éclairer l'internaute, le consommateur de services numériques.
Voilà, Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie et des affaires publiques d'Orange Cyberdéfense, au micro de Christophe Bis. Merci Christophe. Je rappelle que vous êtes journaliste pour l'Usine Nouvelle, partenaire de Radio Village Innovation également pour l'émission Talents Aiguilles que vous animez. Vous pouvez réécouter, chers auditeurs, l'ensemble, bien entendu, de toutes ces émissions, cette série spéciale, mais également les Talents Aiguilles. À très vite.
Radio Village Innovation, émission spéciale.